Radio Kapi.
C'est l'heure du journal de 6h. Journal présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, deux officiers issus des rangs des FARDC comparaissent à Goma devant la cour militaire du Nord Kivu pour s'expliquer sur leurs responsabilités dans la chute de Bunagana. Ils sont poursuivis pour trois chefs d'accusation, notamment la fuite devant l'ennemi et l'abandon des armes et munitions. Les conséquences des conflits communautaires, intercommunautaires au Kwilu, deux morts de plus ont été enregistrés ce week-end parmi les déplacés accueillis à Bandunduville. Le ministère provincial des Affaires humanitaires du Kwilu sollicite l'intervention des partenaires. L'invité de ce journal est le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Luboya Kanchama, dit qu'une certaine accalmie est observée depuis près de 3 mois dans les territoires de Djougou et dans une partie du Rumu. Entretien exclusif avec Martial Kizabiamungu à suivre à la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. À Goma, deux colonels issus des rangs des FARDC comparaissent devant la cour militaire du Nord Kivu pour s'expliquer sur leurs responsabilités dans la chute de Bunagana. Tous deux combattaient contre le M23 dans la région de Tiengerero et Bunagana. Ces officiers sont poursuivis pour 3 chefs d'accusation, notamment la fuite devant l'ennemi et l'abandon des armes et munitions. Le point avec Sifa Maguru.
Les colonels Lobo Kamuhanda Désiré et Dia Jean-Marie dirigeaient les opérations militaires lorsque la localité frontalière de Bunagana est tombée entre les mains du M23 en juillet dernier. Ils sont poursuivis dans le dossier sous RP 150/2022 pour 3 infractions, notamment la fuite devant l'ennemi, la violation des consignes et le détournement des deniers publics. Le ministère public les accuse d'avoir ainsi contribué à la chute de Bunagana en abandonnant les armes, munitions, mais aussi certains véhicules de l'armée aux mains des rebelles du M23. Au cours de la deuxième audience mercredi dernier, leurs avocats ont sollicité une liberté provisoire pour raison de santé. Détenus depuis juillet dans la prison de Munzenze, ces officiers ont été transférés à l'auditorat militaire pour plus de sécurité, selon nos sources. Les deux officiers risquent la peine capitale, a indiqué le ministère public. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Notez que la prochaine audience de ce procès a été renvoyée à mercredi prochain. Parlons justice encore. La Cour de cassation recadre le travail de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. À l'occasion de la rentrée judiciaire de cette haute juridiction, ce week-end à Kinshasa, le premier président a interpellé l'inspectorat sur son rôle à la justice à la suite des inquiétudes soulevées par le président de la République sur le dérapage décrié dans ce secteur ces derniers temps. Les détails avec vous, Jeff Ngoy.
La portée de l'appréciation des services de l'inspectorat général des parquets, c'est le thème du discours développé par le premier président de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi, déplore le dysfonctionnement judiciaire à cause des interférences de ces services dans le travail des juges. L'inspectorat Martel Mukendi n'a pas pour rôle de se substituer au juge qui n'a aucune communication à lui faire sur les décisions judiciaires. Les arrêts et jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du président de la République, rappelle-t-il à l'intention de l'inspectorat. Quant au procureur général près la Cour de cassation, sa mercuriale, axée sur le ministère public face à la liberté d'expression dans un état de droit, fait un rappel à l'ordre public. Les manifestations publiques, dit Firmin Mvonde, doivent se tenir dans le respect de la loi. Chaque citoyen devant respecter la liberté des autres dans les normes. Tout débordement implique l'intervention du ministère public en tant que gardien de la loi et dont la conséquence est pénale. Bâtonnier national, maître Michel Chebelé plaide pour l'assistance judiciaire Prodeo en faveur des indigents. Nonobstant la gratuité d'une telle assistance, ces indigents étant de la République, il devait y avoir une contrepartie de celle-ci dans l'accomplissement des tâches dévolues aux avocats.
De son côté, le chef de l'État a, au cours du conseil de ministres tenu ce week-end à Kinshasa, fustigé des décisions judiciaires et administratives qui entraînent des conflits fonciers dans le pays. Ainsi a-t-il appelé tous les gouverneurs de province à activer les mécanismes de veille et de prévention des conflits communautaires afin de prévenir et de favoriser la cohésion provinciale. Cette interpellation de Félix Tshisekedi fait suite notamment à un conflit foncier qui a jeté dans la rue les habitants de tout un village au Congo central. Des détails avec Noël Alouzitou.
À la suite d'une décision judiciaire, les habitants du village Kimbongo, dans le secteur Boko, territoire de Mbanzangungu, Congo central, avaient été chassés de leurs habitations et dépossédés de leurs terres en septembre dernier. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, le chef de l'État a été saisi de cette situation et d'autres conflits fonciers nés de l'application des décisions judiciaires et administratives qui se sont soldés par le déguerpissement des populations locales de leur village. Déguerpissement souvent accompagné des actes déplorables, tels que la destruction méchante des habitations et même parfois la profanation des cimetières, comme ça a été le cas dans le territoire de Mbanzangungu. Félix-Antoine Tshisekedi a jugé inadmissible l'usage des pratiques illégales frisant le banditisme dans les transactions foncières en milieu coutumier, dans certains cas avec la complicité des autorités judiciaires et politico-administratives qui viennent perturber durablement la paix sociale au sein d'une même communauté locale. Ainsi, le gouverneur du Congo central, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, ainsi que la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ont été invités à prendre les mesures nécessaires pour faire toute la lumière sur les faits qui se sont produits en Mbanzangungu. Ils devront également établir les dysfonctionnements éventuels dans le chef des autorités judiciaires et politico-administratives et de rétablir l'ordre public dans le respect des lois de la République. Il a chargé par ailleurs tous les gouverneurs de province à activer les mécanismes de veille et de prévention des conflits communautaires afin de prévenir et de favoriser la cohésion provinciale.
En conséquence de ce genre de conflits intercommunautaires, deux morts de plus ont été enregistrés ce week-end parmi les déplacés accueillis à Bandundouville, au Kwilu, et qui ont fui les violences dans le territoire de Kwamout, au Maïndombé. Il s'agit de deux enfants de moins de 5 ans, décédés de malnutrition et de mauvaises conditions dans lesquelles vivent ces déplacés. Les directeurs du cabinet du ministre provincial des Affaires humanitaires du Kwilu sollicitent l'intervention des partenaires pour venir en aide à ces déplacés. Jérémy Bikele est au micro d'Irène Boma.
Depuis là, nous avons déjà enregistré 8 morts, 8 décès, dont 5 enfants et 3 adultes. Hier, nous avons pu enterrer un bébé de 6 mois et il y a encore un corps à la morgue d'un enfant d'une année. Dans la situation, nous avons un total de 56 enfants non accompagnés, dont 52 garçons et 4 jeunes filles. Donc, c'est là que nous sommes en train de dire que les conditions dans lesquelles ces familles et ces enfants vivent dans les familles d'accueil ne sont pas suffisamment bonnes, sont précaires. Et nous lançons un appel auprès des partenaires de pouvoir intervenir urgemment en faveur des déplacés qui sont dans les familles d'accueil, qui jusque-là n'ont bénéficié aucun appui, sauf certains appuis en soins de santé, mais dont certains paquets de soins ne sont pas pris en compte. C'est ainsi que nous demandons aux partenaires qui interviennent dans ce secteur de pouvoir venir et intervenir pour assurer le bien-être de personnes qui sont dans la situation de vulnérabilité.
Et pendant ce temps, en Ituri, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée dans plusieurs localités du territoire de Djougou et sur la route nationale numéro 27. Selon des sources concordantes, les exactions des groupes armés dont la Codeco ont sensiblement diminué depuis la signature des accords unilatéraux par leurs leaders, mais aussi grâce aux efforts des forces de l'ordre et des casques bleus de la MONUSCO qui assurent la protection des civils. Explication Isaac Remoyopi.
À parcourant la route nationale numéro 27 de Bounia à Magui, les véhicules de transport en commun et des camions contenant des marchandises circulent sans grande inquiétude. Même des motards et des piétons, parmi lesquels des élèves qui parcourent plusieurs kilomètres pour se rendre à l'école. Selon plusieurs témoignages, les tueries à grande échelle sont devenues rares, sauf certains cas isolés pendant les pillages par ces miliciens. Selon un prélat catholique, c'est depuis 3 mois qu'il n'a pas attendu des coups de feu dans son entité. Des leaders communautaires attribuent cette accalmie aux efforts du gouvernement et de la MONUSCO, qui ont abouti à la signature de l'acte d'engagement unilatéral de certains leaders des groupes armés, dont Codeco et FPIC, mais aussi aux opérations militaires par l'armée congolaise et les forces de la MONUSCO qui font notamment des patrouilles pour la protection de la population. Selon le curé de la paroisse catholique de Fataki, certains déplacés commencent à regagner leur village où ils exercent des activités champêtres. Jean Lodjunga.
Nous n'avons pas encore enregistré de cas de tuerie comme ça fait 3 mois à peu près, vivant et nous sommes là. Les gens cultivent.
Cependant, ce qui inquiète encore la population freine son retour dans d'autres coins, c'est la présence des miliciens qui circulent avec leurs armes, comme le dit encore ces prélats catholiques.
Et ce qui fait plus peur, c'est que les assaillants, ils ont des armes à feu.
De Fataki, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Il va se tenir jeudi et vendredi prochain à Bruxelles la 8e édition du Rebranding Africa Forum autour du thème « Quelle stratégie d'attractivité des pays africains ?». Cet événement est considéré comme le plus grand forum économique en Belgique consacré à l'Afrique, surtout francophone. Il connaîtra la participation des orateurs de haut niveau. C'est notamment des ministres d'État belges, Julien Paluku, ministre de l'Industrie de la RDC, ainsi qu'Anthony Kinzo, DG de l'ANAPI. Outre ces acteurs politiques de premier plan, le RAF aura également des acteurs économiques et technocrates hors pair de grandes institutions bancaires. Le point avec notre envoyé spécial en Belgique, Cynthia Bachizi.
Il est un fait que l'Afrique, dotée de potentialités envieuses, est attractive. Mais le continent africain ne doit plus être considéré simplement comme une vache laitière. En effet, ses ressources diverses doivent dorénavant attirer des capitaux étrangers et créer de la richesse localement. C'est pourquoi le ministre Julien Paluku sera sans doute l'un des orateurs de marque à ce forum du fait de son ambitieux projet de création d'une usine de fabrication des batteries électriques avec les réserves stratégiques du cobalt congolais. L'acte 8 du Rebranding Africa Forum se déroulera dans l'hémicycle du Parlement de la communauté française à Bruxelles, un symbole supplémentaire de l'ancrage institutionnel à Bruxelles. Le choix de cette ville n'est pas anodin. Bruxelles est le siège des institutions européennes, c'est donc là que bat le cœur de l'Europe et où les acteurs politiques décident de leur avenir commun. Mais comme vous le savez aussi, la Belgique a des liens historiques étroits avec la RDC. Nous profiterons donc également de ce séjour pour vous montrer différentes facettes de la vie à Bruxelles et de sa proximité avec le Congolais, renforcée notamment par la grande communauté congolaise qui y vit. Depuis Bruxelles, Cynthia Bachizi, Radio Okapi.
Et toujours en économie, notez que la province du Kassai-Oriental est l'une des provinces congolaises qui produisait plusieurs cultures, dont le coton. À travers cette culture, l'ancienne province du Kassai-Oriental comptait près de 6 bureaux avec plus de 1000 travailleurs de la cotonnière, la société qui exploitait le coton. Radio Capi vous propose une série de reportages au sujet de cette ancienne usine. Mais d'abord, c'est quoi le coton? Réponse avec Esther Ndalafina.
Le coton est un buisson largement cultivé dans plus de 90 pays, principalement pour sa fibre puis pour ses graines. Cette fibre est constituée de cellulose presque pure et généralement transformée en fil qui est tissé pour fabriquer des tissus. La majorité du coton actuellement cultivé est sélectionnée pour produire des fibres de couleur la plus blanche possible. La couleur naturelle varie du blanc crème au jaunâtre, mais plus elle est plus proche du blanc, plus elle est recherchée car l'étape de blanchiment est simplifiée avec la teinture ou l'impression. La fibre de coton est très appréciée car c'est une fibre textile peu coûteuse. Le textile obtenu est doux et confortable. La douceur du coton la rend un textile privilégié pour les vêtements de bébé. Le coton est très sain pour le contact des muqueuses. Il a une bonne imperméabilité à l'air et il permet à la respiration cutanée de s'effectuer. Depuis le 16e siècle, le coton constitue, grâce au progrès de l'industrialisation et de l'agronomie, la première fibre textile du monde. Le coton est utilisé pour fabriquer les vêtements légers dans les régions au climat tropical, tandis que la graine de coton est riche en protéines et utilisée dans les filières alimentaires et cosmétiques.
Actualité internationale.
En Éthiopie, les rebelles du Tigré sont prêts à respecter un cessez-le-feu. Pendant ce temps, le conflit au Tigré s'intensifie. La ville de Shir, dans le nord-ouest de cette région rebelle, a été bombardée pendant plusieurs jours par les forces éthiopiennes et érythréennes, causant la mort d'un humanitaire. Face à cette situation, l'Union africaine a appelé hier dimanche les belligérants à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Une cessation des hostilités que les rebelles du Tigré se sont dit prêts à respecter, alors que le gouvernement éthiopien n'a pas encore réagi à cette demande. Et puis, c'est une nouvelle menace sur les journalistes maliens Mohamed Attaher Haïdou, le promoteur de Joliba TV, chaîne malienne, devra se présenter ce lundi matin à la Haute Autorité de Communication. L'institution exige des explications sur un éditorial dans lequel Mohamed, le directeur de l'information de la chaîne, s'inquiète du danger menaçant la liberté d'expression au Mali. Il interpelle justement la Haute Cour de la Communication afin qu'elle sorte de son silence.
L'invité.
L'invité de ce journal est le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Luboyankachama, dit qu'une certaine accalmie est observée depuis près de 3 mois dans les territoires de Djougou et dans une partie du Rumu, ce qui permet à certains déplacés de retourner dans leur village d'origine. Le général Johnny Kachama s'entretient exclusivement avec Martial Kizabia Mungu. Suivez.
Monsieur le gouverneur des provinces de l'Ituri, général Luboya Kachama, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
La chambre des conseils EMA vous demande de sécuriser leur village dans un délai de 2 semaines pour permettre aux populations d'y retourner. Ne pas le faire, selon elle, elle se réserve le droit de manifester pacifiquement pour obtenir des forces la réponse à leurs revendications. Que répondez-vous à cette structure?
D'abord, ils me donnent des injonctions. Ils doivent savoir que la procédure de retour, elle n'est pas faite de cette façon-là. Il y a beaucoup de populations qui sont rentrées chez elles et il y a une procédure que nous appliquons. Et cette procédure, c'est d'abord, nous travaillons avec la protection civile qui travaille avec l'administrateur du territoire. Et donc, je peux vous donner l'exemple de Nyakoundé où il n'y avait personne quand nous sommes arrivés. Il n'y avait pas de population. Irumu Centre, Irumu Boga, Chabi, Bambou, Kobu, Kiloeta, ainsi de suite. Dans tous ces villages-là ou dans toutes ces localités, nous avons appliqué la procédure. Et que si aujourd'hui, il y a des populations qui veulent rentrer chez elles, il n'y a pas de problème. Elles n'ont qu'à exprimer leur volonté. Nous allons suivre la procédure. Donc, ce n'est pas une question de donner des ultimatums ou quoi. Non.
Selon toujours cette structure de la communauté EMA, des éléments armés de la CODECO circulent avec les armes dans plusieurs villages EMA et qui n'encouragent pas, selon toujours cette structure, les retours de la population. Selon vous, quelles mesures avez-vous déjà prises pour mettre fin à la circulation des armes par la CODECO dans les territoires de Djougou?
Bon, d'abord, la première chose, c'est qu'il faut dire qu'il y a des populations EMA, de la communauté EMA, qui sont rentrées chez elles. Après tout ce qu'ils ont eu comme problème avec toute l'insécurité, il y a des populations qui sont rentrées d'elles-mêmes, notamment à Bloukoua, Mazé, Drodro et tout, sont rentrées chez elles. Bon, maintenant, il y a un petit problème. Même s'il y a eu des signatures d'engagement, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il y a toujours comme ça, on peut voir ici et là des gens qui se promènent en armes parce que dans certains endroits, nous n'avons pas nos forces. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en train de nous préparer et nous sommes sur terrain pour faire les opérations. Et déjà, et vous le savez, hier vous avez vu que sur le lac Albert, nos forces n'acceptent plus que les éléments se promènent en armes et que donc ceux qui se promènent en armes sont tout simplement neutralisés.
À quoi vos partenaires de la MONUSCO contribuent à cette accalmie qui s'observe aujourd'hui dans les territoires de Djougou, dans la protection des civils?
Non, ce n'est pas seulement dans le territoire de Djougou. Nous sommes avec la MONUSCO partout. Vous savez que nous sommes à Boga et à Djabi là-bas. Nous menons des opérations ensemble. Sur au Mont Oyo, nous avons mené des opérations ensemble. Nous avons chassé les ADF de là. Aujourd'hui, même sur la RN4, Commanda, Loloya et tout, nous sommes en train de préparer les opérations pour ça. À Djougou, vous savez que tous les sites là-bas, nous sommes ensemble avec la MONUSCO. Nous protégeons les populations. Et aujourd'hui, là, nous allons encore nous voir comment aussi protéger les axes IGA barrières Walou et les environs. Donc, nous sommes vraiment en parfaite entente avec la MONUSCO. Nous travaillons ensemble pour que cette population soit sécurisée.
Comment évaluez-vous la situation sécuritaire à Ituri?
Je vous ai toujours dit, je n'aime plus faire ces évaluations-là. Bon, aujourd'hui, vous savez, ça fait plus de 3 mois où nous avons une accalmie. Vous n'allez plus entendre qu'on a tué. N'en déplaise à ce conseil-là. Ça fait 3 mois que nous avons la paix ici. Et donc, on n'attaque plus les villages, on n'attaque plus les sites et tout. Et les sites des déplacés, le seul problème que nous avons, c'est justement ces milices-là. Pour le contrôle des sites miniers, ces milices-là que tout le monde connaît. Je vais encore répéter, je vais les citer. Ces milices, il s'agit de CODECO, ZAIR, FRPI et FPIC. Quand ils veulent contrôler une mine, ils s'affrontent dans les mines. Voilà le problème que nous avons. Est-ce que les Congolais ont droit d'aller dans les mines? Oui, les Congolais ont droit d'aller dans les mines. Mais s'ils veulent aller dans les mines, ils doivent déposer les armes. Et ça, je le dis chaque jour. Les mines appartiennent aux Congolais. Ce sont des biens des populations congolaises. Tous les Congolais ont droit d'aller dans les coopératives pour aller travailler dans les mines. Il n'y a pas de problème dans le respect de la loi. Et donc, ils peuvent y aller, mais sans armes, en attendant que le PDDR arrive. Merci, monsieur le journaliste.
C'était l'invité de ce journal, le général Johnny Luboy Nkashama, gouverneur de province de l'Ituri, qui s'entretenait avec Martial Kizabiamungu. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.